pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Juliette ou Julie Bernard naît à Lyon à la fin du XVIIIe siècle, une dizaine d'années avant la Révolution. Elle monte à Paris en 1787. 6 ans plus tard, en avril 1793, en pleine terreur, à l'âge de 15 ans, elle épouse un homme de 27 ans son aîné, connu pour être l'amant de sa mère. Vraisemblablement, son mari, Jacques Rose Récamier, un riche banquier d'origine lyonnaise comme elle, est aussi son père. Leur contrat de mariage est signé chez un notaire du 11e arrondissement de Paris. Il prévoit bien sûr que Julie ou Juliette héritera de toute la fortune de son mari en cas de décès. Elle noue alors avec M. Récamier une relation affectueuse, sincère et profonde, mais platonique. En réalité, cette union d'intérêts et d'amitié, cette association qui durera jusqu'à la mort du banquier, est un mariage de convenance, ce qu'on appelle un mariage blanc. Il est destiné à protéger les intérêts de cette fille peut-être naturelle en cas de décès de son père Marie dans les troubles de la Révolution. Julie Bernard devient alors Madame Récamier, une des femmes les plus éblouissantes du siècle à venir, qui tient un des salons les plus distingués et fit succomber tous les grands hommes, de Chateaubriand à Benjamin Constant, en passant par Lucien Bonaparte. Le banquier Récamier, son mari, fera d'ailleurs rapidement faillite et Juliette n'héritera de rien d'autre que de sa liberté. Le mariage civil, nous rappelle les textes, n'est d'ailleurs pas, à l'origine, établi pour consacrer l'amour, mais pour assurer une protection juridique aux enfants appelés à naître de cette union et garantir leur droit à hériter. Plus généralement, et surtout dans le 19e siècle de la comédie humaine, c'est une union destinée à préserver des intérêts financiers, à mettre en commun des fortunes, une association, un partenariat dans lequel l'amour ne tient pas une grande place, mais plutôt la solidarité, l'amitié, le respect éventuellement. Le mari et parfois la femme mènent une vie sentimentale indépendante, l'homme installe des maîtresses, la femme connaît quelques passions. De ce point de vue, ce sont en quelque sorte aussi des mariages blancs, ou disons qui ont rapidement blanchi. Mais d'un point de vue légal, ils sont parfaitement acceptables, tout comme celui de Juliette Récamier. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, ce sont deux histoires de mariages blancs, basées sur le même genre d'amitié, de solidarité, de communauté d'intérêts ponctuels ou durables, mais qui ne sont hélas pas légaux, comme on l'entend jusqu'à 14h sur France Culture, deux récits de Fabienne Lhomonnier.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
C'était en 2005. J'étais à Bruxelles depuis 3 ans. J'étais avec... copain de l'époque, on est arrivé à Bruxelles ensemble. J'avais pris des cours de néerlandais pour m'intégrer. Et puis, dans les cours de néerlandais, donc j'étais la seule européenne. On était toute une équipe de tchétchènes, russes. Donc on allait tout le temps au bistrot ensemble et j'ai sympathisé pas mal avec Ramin, un iranien. Et puis, voilà, une année passe. Et un jour, il me dit, il faut que je te présente un copain, c'est mon idole absolue, je couperai ma tête pour lui. Je sentais qu'il avait une idée derrière la tête. Donc un soir, je les invite à la maison, il y avait Julien qui était là, mon copain de l'époque, Julien. Je vois Ramin, donc qui est toujours super beau, champion de taekwondo, très jovial et... Et son ami qui me présente comme quelqu'un de vraiment super, un type un peu terne et un peu voûté, maigre, gris, pas marrant, un peu triste, un peu... Il avait pas trop de présence en fait, il était vachement un peu fuyant. Bon, en même temps, c'était la première fois qu'on se voyait, donc c'est un peu normal. Mais Ramin me l'avait décrit comme un grand philosophe, un type super intelligent et tout ça. Puis il était un peu assez curieux, mais en même temps fatigué, puis un peu à cran. Il m'a pas trop plu. Et donc, quelques mois plus tard, c'est Ramin qui m'a demandé si ça m'intéressait de me marier avec Hossein. Et puis j'en ai parlé évidemment autour de moi, à des copains comme ça, j'allais boire un coup, et puis j'ai dit « qu'est-ce que tu penses toi de te marier avec un Iranien ?» Tout le monde « ah mais ne fais pas ça, t'es complètement malade, mais tu sais pas ce qui peut t'arriver, c'est super dangereux, t'as pas lu Jamais sans ma fille !» Donc on m'a vachement déconseillé de le faire évidemment. Après Julien, lui ça lui posait pas de problème, je pense qu'il... Enfin voilà. Et après, j'en ai parlé à demi-mot à mes parents. Bon, évidemment, j'ai pas eu une réponse géniale. Mon père, qui n'était pas hyper ravi, il avait pas les moyens de me l'interdire, mais j'ai bien vu que ça lui faisait pas plaisir. Après, moi, je sentais à qui j'avais affaire. Je l'ai senti, quoi, que c'était pas du tout... Il y avait pas d'embrouille, du tout, du tout, du tout. En fait, il avait du coup pas de papier. Il bossait au noir. Il avait commencé à bosser dans un night shop où on le payait 20 euros la nuit. C'était pas génial. Il pouvait pas retourner chez lui. Enfin, il n'était pas menacé de mort, mais en fait, il supportait pas l'Iran, quoi. Il supporte pas cette privation de liberté. Il avait envie de découvrir le monde. Enfin, voilà. Et il était coincé. Évidemment que j'avais envie de faire quelque chose pour lui. Surtout que se marier, c'est pas... Enfin voilà, ça m'a pris une semaine. Enfin, si je cumule tous les rendez-vous qu'il a fallu faire et les papiers et tout ça. Non, c'est même pas une semaine, c'est 3 jours, c'est pas de l'argent. Donc c'était un tout petit truc que je pouvais faire pour lui. Et puis j'aimais bien la distance qu'il y avait entre nous. Moi, il me plaisait pas. Je sentais qu'il allait pas avoir d'histoire d'amour. Quelques mois plus tard, je me suis séparée de Julien. J'arrivais pas à réaliser, donc j'ai pas pris d'appartement. En fait, on est arrivé aux fins du bail et j'arrivais pas. Donc il y a quelqu'un d'hyper généreux qui m'a proposé de me loger dans un espèce de placard. Dans un espèce de placard au bout d'un escalier, comme ça. Donc c'était 6 mètres carrés. 2 étages en fait, un étage de 6 mètres carrés où je pouvais ouvrir la porte et mettre mon lit. Et puis au-dessus, il y avait une micro-cuisine et une micro-douche. Et j'ai ouvert cette porte, je me suis un peu effondrée en me disant « qu'est-ce que je vais faire là, quoi, dans ce trou ?» Quand j'ai vu ça, je suis encore descendue d'un cran de ma rupture. Et puis je me suis dit « je vais pas pouvoir habiter là, ça va être insupportable, je vais pas tenir le coup. » Et puis finalement, j'ai habité là. Et dans cet appart, j'ai pris une douche et puis il y avait une fuite d'électricité dans la douche et je me suis pris une grosse poignée de châtaigne, j'ai failli m'électrocuter. Et je me suis dit, si je meurs là dans cette douche, personne ne me retrouve dans 3 semaines. Personne ne va savoir que je suis morte. Je suis seule, mes parents ne savent pas où je suis, je ne suis pas domiciliée ici, je n'ai pas d'adresse. Les voisins ne me voient pas parce que je suis dans le placard, donc ils ne savent même pas qu'il y a un appart ici. Et donc il faut que je sois avec quelqu'un. Et donc j'ai appelé Hossein et je lui ai dit écoute, on va se marier. Et voilà, un mariage blanc ça se monnaie souvent. Après moi j'ai un rapport un peu bizarre avec l'argent, du coup ça me faisait vraiment pas plaisir de demander de l'argent, puis il l'avait pas de toute façon. Enfin voilà. Donc on a dealé, notre deal machiavélique, c'était que lui payait le loyer, on vivait ensemble. Parce que j'étais partie aussi sur les couples qui s'étaient mariés en France, mais où les flics faisaient leurs poubelles, regardaient leurs brosses à dents. Donc je me suis dit, si on vit pas ensemble, ça va pas marcher. Donc ça s'est fait assez vite. On a déménagé ensemble, j'ai cherché l'appart, tu étais occupé, il bossait comme un fou, jour, nuit, pour gagner des clopinettes. Lui avait sa chambre, la plus petite chambre. Un peu comme ça au milieu du passage. Et puis moi, j'avais la grande chambre dans le fond où j'étais. C'était un peu une grotte. J'avais vraiment mon espace. Donc là, on n'était pas encore mariés. On s'attendait à ce que les flics débarquent chez nous, tout ça. Et puis on faisait notre vie, vraiment chacun son côté. On ne se croisait pas plus que ça. Et puis, la police devait passer chez nous. Parce qu'en Belgique, quand on se domicilie, on doit La police doit passer pour vérifier si on est là. Donc on attend la police, on installe l'appartement nickel pour que sa chambre, ce soit notre chambre d'amoureux. Donc je fais un petit bac spécial, linge sale avec mes soutifs dedans et des babioles de filles comme ça dans la chambre qui restent tout le temps au cas où la police passe. Et puis la police, ils sont jamais venus, quoi. La police, on les a trouvés en bas. On habitait au-dessus d'un bar et on les a trouvés en bas avec la table remplie de verres de bière. Ils étaient tous les deux en uniforme, complètement pétés. Donc on a fini par se déplacer, aller au commissariat en disant « Bonjour, vous devez venir chez nous, on vous attend. »« Ouais, mais c'est bon, vous êtes là, pas la peine de venir, on s'en fout. » Quand on a fait la demande pour se marier, on a eu rendez-vous à la commune pour voir si on ne faisait pas un mariage blanc. Et en partant, on descend de chez nous, et puis c'était le marché du jeu de balle. Puis je vois des chouettes gants en cuir, et puis Hossein me les achète, très gentil. Et puis on arrive à notre rendez-vous, et là on a eu les questions, donc séparément, toute une série de questions, vraiment sur notre mode de vie, donc avec quoi vous cuisinez qu'est-ce que vous faites comme métier? En quelle langue vous vous parlez? C'est quel jour son anniversaire? Qu'est-ce que vous lui avez offert comme cadeau? Quel est le dernier cadeau que vous lui avez fait? Donc là, le coup des gants, c'est super bien tombé. Et puis, ça c'est Hossein, il est vraiment incroyable pour ça. J'étais un peu fâchée. Mais pour son anniversaire, on fume pas de drogue, mais je sais pas, il m'a dit à un moment, ouais, j'aimerais bien essayer de fumer du shit. Et je me souviens que pour son anniversaire, je lui ai offert une petite chouette en argent, parce qu'il adore les chouettes, et un peu de shit. Et cet andouille-là, il marque ça sur le questionnaire. Qu'est-ce que vous avez reçu pour votre anniversaire? Du shit. Il dit ça chez les flics. Bon, super. Moi, de mon côté, je mets pour son anniversaire, je lui ai offert une chouette et une petite boîte secrète. Un peu plus subtile, comme ça. Bon. Et puis du coup, c'était drôle, c'était hyper comique, les flics, ça les a amusés en fait. Tout le monde était de super bonne humeur, donc ça s'est vraiment passé comme une lettre à la poste, aucun souci. Donc c'était validé, et puis quelques mois plus tard, on a eu le droit de se marier. Donc il y a eu la cérémonie, par un jour pluvieux, sur la grande place de Bruxelles, dans l'hôtel de ville. J'avais quand même une belle robe, lui était en costard, mais j'avais un bouquet de fleurs et puis basta. Il devait y avoir, je sais pas, 10 personnes, un truc comme ça, les amis proches et ceux que ça faisait rigoler d'être là. Et puis voilà, on est allé boire un coup après, c'était terminé. On a fait une fête avec tous les amis, ça c'était hyper drôle parce que on a fait une fête du coup dans le bar en bas. Et puis Hossein dit « Allez, toutes les boissons sont pour moi !» Et il gagnait vraiment pas un radis quoi. Et lui, en fait, en tant qu'Iranien, c'est vrai que quand on faisait des fêtes avec les Iraniens à la maison, il y avait 30 personnes et on buvait 6 bouteilles de vin. Donc je crois qu'il ne se rendait pas compte des Belges ce que ça pouvait être. Donc les amis iraniens étaient au fond, ils dansaient, ils ont fait à manger super bien. Tous les amis belges étaient collés au bar, en train de picoler comme des fous. Enfin bon, c'était raisonnable quand même, mais quand t'as 20 personnes, voilà. Donc du coup, il s'est un peu endetté chez notre voisin du tout. C'était quand même une belle fête. Et puis voilà, après c'était réglé. Et après le mariage, Hossein, il attendait les papiers, il attendait. C'était vraiment le truc qui était long à attendre. Il a attendu les papiers. Dès qu'il les a eus, il a pris son billet d'avion. Il est allé en Iran parce que ça faisait quand même 8 ans qu'il n'avait pas vu sa famille. Et il est arrivé et sa mère était décédée depuis 3 jours. Donc il a raté. Il a juste raté et c'était quand même assez dur. Donc bon, après, ce qui était bien, c'est qu'il a pu retourner pour accompagner un peu le deuil. Il y a eu le deuil où ils font 45 jours après. Enfin, il y a des étapes comme ça qu'il a pu suivre. Mais voilà, là, c'était vraiment un moment où je l'ai vu pas bien et que j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse, quoi, qu'il pouvait pas retourner. C'était pas évident. Mais du coup, après, quand il a pu voyager comme ça, la vie s'est transformée, quoi. Là, c'était fulgurant, comme il a décollé, comment il s'est épanoui. On sortait, on s'amusait, il avait plein de copines, et puis Je sais pas, on... ouais, son point de vue du coup sur la Belgique, c'est vachement ouvert. Il a fait les rencontres. Il était heureux de cette énergie-là. Et puis, il avait rencontré Monica. J'ai dû partir un mois, je sais pas quoi, en voyage. Et puis, je suis revenue et Monica avait pris le pouvoir dans l'appart. Elle avait mis des trucs horribles partout, de la déco, des pots pourris. C'était trop l'angoisse et elle me laissait plus de place. Mais du coup, je suis partie et puis... Je me suis sentie un peu abandonnée. Je m'étais pas reconstruite, j'étais quand même encore un peu flottante. Ouais, non, moi c'était pas encore le bon moment pour moi en fait. Et puis, pas très longtemps après, il m'a invitée en Iran. Je crois qu'il avait la pression de sa famille en fait, qui se demandait qu'est-ce qui se passait en Europe et avec qui il était marié. Et en fait, il m'a dit. Plusieurs fois après, il m'a dit « Tu m'as doublement sauvé. Tu m'as sauvé de ma situation de sans-papier en Europe, mais tu m'as sauvé de ma situation de célibataire en Iran, parce que tu peux pas être célibataire en Iran, tu dois te marier. » Enfin voilà, il est quand même reconnaissant, et puis la relation qu'on a maintenant, c'est quand même aussi super, quoi. Il y a beaucoup d'affection entre nous. Enfin, moi, c'est vraiment comme un frère. Et il compte. Pour moi, beaucoup.
Les pieds sur terre.
Je suis partie d'Amérique du Sud quand j'avais 19 ans, en fait juste pour quelques mois, histoire de voir autre chose, apprendre le français et puis revenir. Et le temps a commencé à passer, et j'ai commencé à faire des études à la fac. Et c'est là où j'ai rencontré cet ami, Thomas. Je pouvais faire mes études parce que j'arrivais à faire renouveler mes papiers, une carte de séjour étudiante. Donc jusqu'à la fin de mes études, c'était possible de rester en France et travailler et continuer à faire ma vie sans me poser trop de questions. Et je savais que j'avais pas envie de choisir de rester ici ou de rentrer dans mon pays. J'avais juste envie de continuer à chercher mon chemin, ma vie. Et si je rentrais à la fin de mes études, pour moi c'était insupportable de penser qu'on faisait le choix pour moi. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre? Est-ce que je reste? Mais il y a eu la possibilité avec cet ami, Thomas, qui m'a proposé le mariage blanc. On savait qu'on rentrait dans un espace interdit. Mais on a commencé à faire ces démarches et on s'est mariés en novembre. Et c'était très, très joyeux, en fait. C'était très dur avant, juste même jusqu'à la veille. Moi, la veille même, je me suis dit que peut-être que j'annulais tout. Aussi parce que c'était très tendu entre Thomas et moi. Je pense parce qu'on était inquiets, parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on faisait. Mais arrivé le jour, le samedi, en fait, ça a été, je pense que plus beau qu'un vrai mariage, quoi. Enfin, en tout cas, ça a été un vrai mariage pour nous, d'amitié, d'engagement de l'un à l'autre. Mais non, c'était un très beau mariage avec du riz et puis des fleurs et puis des amis qui filmaient. Et puis on a fait une fête après. Il y avait de quoi être heureux, en fait, d'avoir pu dépasser ça, tout ça, toutes ces peurs. Donc après le mariage, j'ai donné un préavis pour trouver un appart ensemble. Et en fait, entre-temps, il m'a dit non, il ne faut pas qu'on habite ensemble parce qu'il avait sa copine. Et on a décidé alors qu'il habite lui avec son ami dans l'appart et que moi j'allais y aller régulièrement pour faire croire que j'y habitais. Moi j'avais pas très peur pour moi. Moi la pire des choses qui pouvait m'arriver c'était de rentrer dans mon pays. C'était vraiment pas un problème. Pour lui, par contre, j'étais inquiète parce que je ne savais pas comment il pouvait payer ça. Et je savais plus ou moins, oui, avec ou prison ou des amendes. Mais je crois que c'était pas... En plus, c'était une période où ça commençait à se durcir. Donc du coup, j'ai décidé d'aller voir un avocat. Et je suis arrivée chez cet avocat, j'ai ouvert la porte et je lui ai dit « Bonjour, je viens parce que j'ai fait un mariage blanc. » Et là, il me dit... Top. Là, vous arrêtez tout de suite de dire blanc. Ce mot n'existe pas, mariage blanc, ça n'existe pas. Vous êtes marié, point. Donc on recommence et vous me dites, je me suis mariée. En plus, en me disant ça, il me disait en même temps des choses très clairement. C'est sûr que vous allez être contrôlé, c'est sûr que la police elle passe. C'est bon, enfin qu'ils viennent, c'est pas grave. Et en plus, il m'a dit, de toute façon, si jamais il sonne à votre porte et que votre mari n'est pas là et qu'il n'habite plus là, vous pouvez leur dire ou qu'il est en voyage ou que vous êtes séparés et point. Pensez au mariage et arrêtez de penser au mariage blanc. Quelques temps après, on a eu un rendez-vous à la préfecture pour un entretien suite à ma demande de nationalité. Avec Thomas, on s'est dit qu'on n'allait juste pas se préparer du tout. Qu'on allait juste venir avec tout ce qu'on connaissait l'un de l'autre en tant qu'amis. On se connaissait beaucoup, on était vraiment très proches. Et de toute façon, l'entretien est très trouble. Enfin, on était tous les deux ensemble, sauf qu'il me parlait tout le temps en espagnol. Mais bon, il cherchait à un moment à que moi je me sente fragilisée, éventuellement avouer quelque chose, craquer ou... Je me suis dit, bon, je ne vais pas chercher à le convaincre de quoi que ce soit. Et en fait, on est sortis de l'entretien un peu en fait, soulagés quand même, même si on n'avait rien compris. De toute façon, tu es un peu au bord hein, tout le temps, en fait. Je pense qu'il y a des gens, j'ai vu des couples qui venaient après nous, et moi je leur disais, mais ça va aller, enfin... Mais, ils avaient très peur, mais je pense que ce n'était pas forcément des mariages blancs. Hein. C'est que ça fait peur, en fait. Et puis un an après, j'ai eu la réponse, je ne me souviens pas très bien. Je crois que, oui, j'ai eu une lettre me disant que j'étais française depuis telle date. Voilà, donc c'était fait. Mais c'était fatigant, en fait. C'était beaucoup d'énergie. Longtemps après, on a pu enfin... regarder ça avec un petit peu de distance et voir à quel point c'était un acte d'engagement très fort.
Oh,
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, Mariage Blanc, un reportage de Fabienne Lhomonnier réalisé par Perret Legras. Vos commentaires, vos réactions, vos suggestions, franceculture.fr, bien sûr à la page des Pieds sur Terre ou bien surtout sur les réseaux sociaux, page Facebook, compte Twitter, si vous aimez Les Pieds sur Terre, si vous voulez nous écouter où vous voulez, quand vous voulez, vous devez, c'est obligatoire, vous abonner à notre podcast. Sandrine Chaperon, l'attachée de production des Pieds sur Terre, est irremplaçable, mais parfois elle se repose. C'est donc Valérie Borst qui fait son travail toute cette semaine, qu'elle en soit remerciée.